Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Hélène Lefrançois, Bertie Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jean-Guy Lamège. On poursuit notre série consacrée au sport comme arme de séduction massive dans les relations internationales. Et ce matin, direction la Russie.
Les sanctions interdisent donc à la Russie de participer aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques et aux Championnats du Monde pendant 4 ans. La Russie ne pourra pas accueillir l'un de ces événements majeurs pendant cette période.
Ce qui est important dans la décision d'aujourd'hui, c'est que nous sanctionnons vraiment ceux qui sont responsables de ces manipulations et laissons les portes ouvertes à ceux qui n'ont rien à voir avec le scandale du dopage en Russie, des athlètes propres et innocents.
Il va falloir bien analyser cette décision. Tout laisse à penser que cette décision n'a rien à voir avec le sport propre, mais qu'elle soit politiquement motivée.
Voilà, extrait de la déclaration de Craig Reedy, actuel président de l'Agence mondiale antidopage, également Witold Banka, le futur président de la même agence, et puis on entendait également le président russe Vladimir Poutine. En décembre dernier, après des années de tergiversation des différentes instances compétentes, l'Agence mondiale antidopage a exclu la Russie des compétitions sportives internationales pour 4 ans. 4 ans pendant lesquels Moscou ne pourra plus participer aux grands rendez-vous, alors sous bannière neutre, ni a priori les organiser. Un coup sévère porté à la diplomatie du sport russe, volet essentiel du soft power selon Vladimir Poutine. Lui-même sportif aguerri, le maître du Kremlin, s'est en effet appliqué dès son arrivée au pouvoir à faire de la Russie une puissance incontournable en la matière. Objectif, voir rayonner le pays à l'international, mais également travailler les mentalités à l'intérieur de ses frontières. S'appuyant sur des oligarques acquis à sa cause, le dirigeant a ainsi transformé en quelques années la station balnéaire de Sotchi en un site olympique pharaonique qui s'est retrouvé sous les caméras du monde entier lors des JO d'hiver de 2014. Mais c'est 4 ans plus tard, avec la Coupe du Monde de football, que la diplomatie sportive de Moscou a atteint son apogée, faisant converger des centaines de milliers de supporters vers la Russie. Un succès d'image indéniable, aujourd'hui terni par les différentes affaires de dopage auxquelles le pays est confronté. Alors cette décision de l'Agence mondiale antidopage mettra-t-elle un coup d'arrêt à cette diplomatie sportive de Moscou? La Russie pourra-t-elle au contraire s'appuyer sur cette déconvenue pour rebondir? Quel bilan tirer des 20 ans de diplomatie de Vladimir Poutine dans le sport? Pourquoi en a-t-il fait un élément si central de sa politique? Et comment s'organise-t-elle concrètement? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Lucas Aubin. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à l'Université Paris-Nanterre, un spécialiste de la Russie et du sport. Vous rédigez une thèse en géopolitique consacré précisément au rôle stratégique du sport dans cette Russie contemporaine. Vous partez d'ailleurs très bientôt du côté de Sotchi, où vous allez faire un certain nombre d'entretiens sur cette question du sport dans la diplomatie russe. D'abord, une première réaction un peu générale, on va avoir le temps de détailler les choses, mais sur cette décision de l'Agence mondiale antidopage, est-ce qu'elle est attendue? Est-ce qu'elle est surprenante? Comment est-ce que vous l'avez accueillie, Lucas Aubin?
Non, ça a été plutôt une surprise, en vrai, parce que depuis quelques années maintenant, depuis 2 ans, la diplomatie sportive russe a changé de ligne de mire, en réalité. Elle est devenue plus positive, dans le sens où les instances antidopage russes cherchent, depuis maintenant 2 ans, à montrer patte blanche, afin de rentrer à nouveau, en fait, dans le concert des nations sportives internationales.
Ce qu'elle avait d'ailleurs réussi pendant un moment.
Et en fait, là, quelque part, c'est un coup d'arrêt et un coup dur parce que les décisions à l'échelle nationale étaient positives. Voilà. Donc là, on peut imaginer effectivement que les autorités russes sont très très en colère et on peut imaginer des difficultés dans les prochaines années.
La suite, Lucas Aubin, parce que depuis le début de cette affaire lancée en 2011, il y a eu un certain nombre de rebondissements avec des instances internationales qui se sont contredites entre elles, l'Agence mondiale antidopage, le CIO, le tribunal arbitral du sport, ce qui a permis d'ailleurs à la Russie de sauver sauver sa participation aux JO, de sauver aussi in extremis sa première place au classement des médailles des JO de Sochi en 2014, qui était très important évidemment pour elle. Est-ce que peut-être on peut rappeler en quelques mots ces atermoiements des différentes instances et comment se fait-il précisément que ces agences internationales puissent à ce point se contredire sur ce dossier ?
Parce qu'il y a cette volonté, je crois, de l'instantanéité aujourd'hui et qu'on demande souvent à ces instances internationales de réagir très rapidement face à des cas de dopage avérés. Et pour ce qui concerne la Russie, on a eu quelques cas de dopage qui ont été révélés. Puis l'AMA a essayé de mener une enquête sur le terrain en Russie, mais enquête qui a été très difficile et très courte finalement, pour pouvoir définir si oui ou non ce dopage avait été étatique. Finalement, l'AMA n'a pas été capable, en fait, de l'expliquer clairement. Encore aujourd'hui, on est incapable de dire si oui ou non Vladimir Poutine était au courant, par exemple. Ça paraît très a priori compliqué d'imaginer que non, en fait, dans un État aussi centralisé, mais en tout cas, il n'y a pas de preuves formelles. Toutes ces décisions-là ont été prises de la part de l'AMA unilatéralement, mais évidemment, les instances internationales d'antidopage ne fonctionnent pas de manière individuelle. Et donc, certaines décisions ont été retoquées par le tribunal arbitral du sport, qui a jugé en 2016 que finalement plus d'une vingtaine de sportifs russes n'avaient pas été dopés, ou en tout cas que les preuves n'étaient pas suffisantes pour dire qu'ils avaient été dopés durant l'événement Sochi 2014. Et du coup, effectivement, ces sportifs ont récupéré leurs médailles. Et toutes ces informations contradictoires font que finalement le pouvoir politique russe aujourd'hui surfe dessus, en fait, en disant effectivement, à juste titre parfois, comment est-ce possible que des décisions soient prises dans un sens un jour, dans un autre sens un autre jour, donc finalement, ça signifierait que l'AMA serait pro-occidentale, pro-américaine, etc.
Sans compter que la bataille n'est pas terminée, puisque les autorités russes ont fait appel précisément auprès du tribunal arbitral du sport de Genève. Ça a été annoncé, je crois, le 19 décembre dernier. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Est-ce que le tribunal pourrait à nouveau revenir sur la condamnation de l'agence antidopage ?
Ça paraît compliqué. À mon avis, certaines décisions vont être adoucies. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. On a vu que Yuris Ganous, le président de l'agence antidopage russe, avait associé au courrier de la Russie au tribunal arbitral du sport un courrier disant que lui n'était pas d'accord avec ce recours. En fait, donc il s'est mis concrètement en porte-à-faux vis-à-vis des autorités russes en disant que lui considérait qu'effectivement la Russie avait fauté et tout ça. Donc ça montre quand même que déjà d'une part ça montre une chose, c'est intéressant, c'est que pour la première fois depuis le début de cette affaire, les autorités russes ne sont pas d'accord entre elles. Donc ça montre quand même qu'il y a effectivement eu une évolution ces dernières années, finalement. Et ça montre également que le problème est réel, en fait, en dépit de ce que peut dire le président russe.
Même si le président russe admet qu'il y a des problèmes de dopage, on y reviendra. Mais faisons des hypothèses, Lucas Aubin, parce que en l'état, c'est la seule chose qu'on peut faire. Faisons l'hypothèse que le tribunal confirme la condamnation. Le tribunal arbitral du sport de Genève confirme la condamnation de l'Agence mondiale antidopage. Que se passe-t-il pour la Russie ? Quelles conséquences très concrètes pour les athlètes, pour les autorités russes, pour leur capacité à organiser ou non des événements, pour leur capacité à peser ou non à l'intérieur des instances internationales du sport ?
Il y a a priori trois séismes géopolitiques dans le monde du sport qui vont intervenir du coup pour la Russie dans les quatre prochaines années, si c'est confirmé. La première, c'est évidemment de ne pas pouvoir concourir dans les grandes compétitions internationales sous les couleurs de la Russie. Donc concrètement, ça signifie effectivement drapeau neutre, drapeau olympique lors des JO, etc., etc. Ça ne signifie pas d'hymne russe lorsque les athlètes vont remporter une médaille d'or ou une compétition. Néanmoins, ça ne concerne pas toutes les compétitions internationales, et en fait, par compétition internationale, faut comprendre intercontinentale, en réalité, parce que la Russie pourra participer, par exemple, à l'Euro 2020. Et d'ailleurs, un des stades, le stade de Saint-Pétersbourg, va participer à l'organisation de cet événement aussi. Donc finalement, il y a quand même une nuance à apporter. Donc l'Euro est considéré comme une compétition continentale et non pas comme une compétition internationale. Donc déjà, on joue un peu sur les mots et toutes les compétitions ne seront pas concernées, en fait. Voilà. Ensuite, deuxième chose, c'est le fait que la Russie ne va pas pouvoir accueillir d'événements sportifs internationaux majeurs pendant 4 ans. Ça, c'est ce probablement le vrai.
Bah oui, mais en même temps, on vient de faire les JO à Sochi, on vient de faire la Coupe du Monde en 2018. Le cycle russe est passé d'une certaine manière, non ?
Le cycle russe n'est pas tout à fait passé, en fait. Oui. La Russie avait encore comme objectif d'obtenir les JO d'été, qui n'ont pas, qui se sont tenus en Russie une fois en Union soviétique en 1980, mais pas depuis, et c'était un objectif avoué de Vladimir Poutine. Donc pour l'instant, ils n'ont pas réussi. Mais surtout, la Russie voulait lancer un cercle, une dynamique vertueuse, un cercle vertueux sportif, et accueillir régulièrement des populations du monde entier à travers des événements sportifs. Nous, évidemment, on s'est concentré évidemment sur Sochi 2014 et la Coupe du Monde 2018, mais en réalité, il y en a des dizaines des ans, en fait, des compétitions sportives de grande ampleur, qui nous concernent pas forcément d'ailleurs, mais nous, les sports d'hiver, par exemple, on n'a pas, en France, on n'est pas spécialement fan de sports d'hiver, mais dans une grande partie des pays nordiques, par exemple, c'est quelque chose d'assez populaire. On peut penser aussi aux compétitions internationales d'échecs qui se tiennent régulièrement à Elista en Russie, qui sont très importantes d'un point de vue symbolique pour les
Russes. Oui, je crois qu'il y a un mondial de volley aussi qui aurait pu se faire du côté de la Russie, qui pourra pas se faire a priori. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que l'agence antidopage reproche très concrètement à la Russie ? On a compris qu'en gros, le problème, c'est que on soupçonne la Russie d'avoir mis en place un système de dopage carrément d'État, d'avoir mis en place un régime systémique de dopage. Mais concrètement, quels sont les éléments qui permettent de confondre la Russie sur ce plan ?
Les éléments, c'est que évidemment il y a eu de nombreux échantillons positifs qui ont été révélés à l'égard de beaucoup de sportifs russes.
Ça ne fait pas des autorités russes les organisatrices d'un système de dopage.
C'est ça. Et c'est là que c'est très compliqué, c'est là que le bât blesse. Parce que, par exemple, d'un point de vue personnel, je ne crois pas que l'expression dopage d'État soit légitime aujourd'hui. On peut l'imaginer, est-ce qu'on peut le prouver ?
Qu'on utilisait beaucoup à l'époque soviétique.
Bien sûr. Je pense que d'ailleurs, c'est un réflexe occidental anti-soviétique, quelque part, dans une certaine manière. C'est-à-dire qu'on applique une sorte de représentation, c'est de la géopolitique, techniquement. C'est-à-dire qu'on a des représentations négatives à l'égard de la Russie, parce que c'est un État qui, quelque part par essence, défie l'Occident, et puis qui regarde à la fois à l'Est et à l'Ouest. C'est très étonnant pour nous. La Russie a sa propre altérité, sa propre grille de lecture de la situation, des situations géopolitiques mondiales. Et effectivement, l'expression de dopage d'État est entrée dans le langage courant. À mon sens, on ne peut pas prouver aujourd'hui que les autorités russes, au sommet de l'État, ont consciemment décidé de doper ces sportifs durant les JO de Sochi. Néanmoins, en réalité, ce qu'on peut voir, de mon point de vue, c'est une sorte de réflexe pavlovien soviétique de la part de nombreux acteurs du sport russe qui, comme à l'époque soviétique, ont cherché à obtenir des résultats. En fait, parce que pour la Russie, pour le pouvoir russe, c'est important d'organiser l'événement, mais également de le remporter. En fait.
Et c'est là qu'on voit qu'il y a une conception russe très différente du sport. Hein. Pour nous, c'est évidemment la participation qui prime. L'essentiel, c'est de participer. Du côté de la Russie, c'est absolument pas ça. Nous, le sport, c'est éventuellement un outil qui permet l'épanouissement des individus, qui permet éventuellement de canaliser les frustrations sociales et sociétales. La Russie, c'est pas ça, c'est tout autre chose. Il faut gagner.
C'est un vecteur patriotique en Russie.
Oui, mais chez nous aussi. Mais...
Chez nous aussi, mais en Russie, il y a vraiment, effectivement, il en va de l'honneur du pays et de ses athlètes, en fait. Et les JO de Sochi, pour ça, c'était très impressionnant. C'est-à-dire qu'au moment où il y a la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, les gens que j'ai pu rencontrer en Russie à ce moment-là, parce que j'y étais, j'étais pas à Sochi, mais j'étais à Moscou, mais les gens étaient émus, en fait. Très émus, aux larmes, en fait. Parce qu'il y avait une certaine idée de revanche aussi, parce que les JO de 80 étaient tombés sous le coup du boycott de nombreux pays occidentaux. Là, finalement, la Russie a réussi à obtenir ses Jeux et les organise de manière complètement pharaonique, mais en fait un événement marquant. En fait, tout le monde se rappellera probablement pendant longtemps de ces JO d'hiver qui ont été les plus impressionnants de l'histoire. Ça, je pense que pas grand monde peut dire l'inverse, en réalité. Donc oui, il y a cette idée de patriotisme, de fierté qui revient régulièrement. Et pour terminer justement sur ce que je disais avant, les JO de Sochi, Vladimir Poutine avait rédigé un oukase, donc une lettre officielle disant qu'il fallait bien organiser les JO de Sochi, mais qu'il fallait également les remporter. Donc c'était écrit. en fait. Donc il fallait mettre tout en branle à ce moment-là, donc on est en 2007, pour remporter cet événement qui s'est tenu à l'époque, du coup, 7 ans plus tard. Ouais, en fait, tout a été mis en œuvre, et notamment, effectivement, énormément de dopage. Et il faut se souvenir que, à la veille des JO de Sochi, la Russie est la cinquième nation de sport d'hiver de la planète. Mmh. Et finalement, elle finit première au classement des médailles.
Et ces JO, c'était vraiment l'arène de laquelle l'homme russe devait impérativement sortir vainqueur, même si à Sochi, quand même, il a fallu aussi mettre un tout petit peu, c'est ce que vous dites dans l'un de vos articles, un tout petit peu cette culture de la gagne de côté pour sublimer aussi la dimension, disons, un peu chaleureuse, sympathique de ce genre d'événement sportif. Il faut quand même être dans la lignée de l'esprit olympique.
Bien sûr, bien sûr. Et la Russie est aussi un pays qui sait accueillir, extrêmement hospitalier, et bien sûr que le pouvoir russe avait comme volonté de montrer ça, avait à cœur de montrer ça. C'est quelque chose que n'importe quel touriste et n'importe quelle personne ayant déjà traversé Moscou, Saint-Pétersbourg, etc., pourra vous le dire. C'est un pays très très accueillant, et bien sûr que ces événements sportifs là du coup sont utilisés comme une manière de changer l'imaginaire négatif qui existe à l'égard de la Russie. Voilà, mais cette stratégie de soft power a quand même évolué entre justement les JO de Sochi et la Coupe du Monde de football 2018. Mais on y reviendra, j'imagine.
On y reviendra. Lucas Eubin, quelles conséquences très concrètement pour Vladimir Poutine ? Évidemment que ne pas avoir de drapeau russe aux Jeux Olympiques, c'est un manque à gagner pour l'image du pays, évidemment. Mais est-ce que c'est seulement ça, ou est-ce qu'il y a peut-être des conséquences moins évidentes pour nous, en tout cas vu d'ici, on voit peut-être pas toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Et l'autre question, Lucas Aubin, c'est celle de la réaction possible de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il faut attendre de sa part une réaction, laquelle, une riposte, laquelle pourrait-elle être ?
Alors, concernant les conséquences directes, c'est vraiment à l'égard de toute cette génération d'athlètes russes qui pendant 4 ans vont avoir des difficultés à concourir à l'international. Et là, pour la première fois depuis le début de cette affaire du dopage, en fait, on entend de nombreuses voix en Russie, de nombreuses voix d'athlètes s'élever, enfin, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, etc., afin de dire qu'on sorte de ce système un peu archaïque, c'est souvent ce qui revient, un peu soviétique justement, comme on disait, donc vertical, etc., et qu'on s'adapte et qu'on se conforme aux instances internationales. Voilà, donc il y a quand même aujourd'hui finalement cette façade patriotique qu'on avait pu observer jusqu'à présent est en train de se fissurer actuellement, et c'est donc un coup dur pour Vladimir Poutine, ça d'un point de vue sociétal, clairement. Mais, pour répondre à votre seconde question, du coup, au niveau des compétitions internationales à laquelle la Russie ne va pas pouvoir participer, il est possible, probable, à mon avis, que la Russie organise des compétitions parallèles, comme elle a pu le faire du temps de l'Union soviétique. En 1984, notamment, lors du boycott des JO de Los Angeles, l'Union soviétique avait organisé les Jeux de l'Amitié. Et ces Jeux s'étaient tenus avec tous les pays alliés, communistes, etc., afin de montrer, déjà à l'époque encore, le rayonnement soviétique, etc. Et plus récemment aussi, lors des JO de Rio, donc la Russie avait pu participer à la compétition, mais n'avait pas pu participer à la compétition des JO handisport, parce que là, elle avait été exclue. Ça montre d'ailleurs, encore une fois, tout ce dilemme de l'AMA et du CIO à prendre des décisions concrètes. Enfin, concrètes, on va dire unilatérales. Et du coup, la Russie avait organisé des JO handisport parallèles, déjà, donc en 2016. Donc, il est probable que ce soit déjà le cas. Et ce sera, à mon avis, des coups de communication qui ne manqueront pas de faire parler dans les médias un peu partout.
Vous parliez du boycott de 1984 des JO de Los Angeles. Il répondait, ce boycott, à un autre boycott 4 ans plus tôt, évidemment. C'était là les JO du côté de Moscou, et Jimmy Carter avait dit non, nous n'irons pas.
J'ai donné des ordres pour que les États-Unis ne participent pas aux Jeux de Moscou si les forces d'invasion soviétiques ne se sont pas retirées avant le 20 février. Ce délai expire demain. Rien ne sera changé dans notre position.
Voilà, on est donc en février 1980. Lucas Aubin, c'est évidemment un autre temps, celui de la guerre froide. Jusqu'où est-ce qu'on peut établir un parallèle entre les deux situations ? On était en pleine guerre froide. Est-ce qu'on pourrait aller vers quelque chose qui ressemble à une guerre froide du sport ? Ou est-ce que finalement cette séquence-là qui vient de se passer, elle va finir par s'estomper et compte tenu par ailleurs de ce que ça représente en termes économiques, finalement le business, l'économie va reprendre ses droits et le sport va reprendre, j'allais dire, sa place habituelle et sortir de l'arène purement diplomatique.
J'irais même plus loin, hein. Je pense qu'on est dans une guerre froide du sport, mais on est surtout dans une nouvelle guerre froide tout court, en fait, multipolaire. En fait, avec des nouvelles puissances qui émergent finalement, et avec des pays occidentaux qui sont de plus en plus affaiblis face à la montée en puissance de la Chine, à la Russie qui justement commence à nouer des alliances fortes en Amérique du Sud et en Chine également. Donc c'est plus si simple. Alors c'est évidemment moins binaire qu'à l'époque soviétique de la guerre froide, mais on voit quand même quelques signaux, notamment à travers des conflits type le conflit syrien, où en fait la Russie fait jouer régulièrement sa carte, on va dire, sa carte, son altérité finalement sur le concert des nations.
Mais dans le domaine du sport, Lucas Aubin, à quand est-ce qu'on peut faire remonter le début de cette guerre froide du sport? Parce que l'affaire dont on parle là, elle est partie en réalité de la Russie. Ce sont des lanceurs, alors certes c'est une enquête allemande, mais ce sont des lanceurs d'alerte russes qui sont à l'origine de tout cela. C'est pas une attaque qui viendrait de l'extérieur.
Tout à fait. Non, il y a eu effectivement un problème au sein même du sport russe, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que ces lanceurs d'alerte, en fait, aujourd'hui, sous la protection des témoins aux États-Unis, on ne sait pas où ils se situent, on ne sait pas où ils vivent, etc. On a quand même l'impression, finalement, que les États-Unis ont leur Snowden à eux, comme la Russie a eu Snowden à une époque. En fait, il y a une espèce de...
Mais est-ce qu'ils se contentent de les protéger, ou est-ce qu'ils sont peut-être à l'origine de l'affaire?
Oui, je pense qu'ils sont à l'origine de l'affaire. Je pense que beaucoup de gens étaient au courant en Russie de ce qui se passait au niveau du dopage, tout comme c'était le cas en Union soviétique, mais personne ne le disait. Ça a été très compliqué, pour revenir du coup un peu en arrière, dans les années 80 et dans les années 70, 60, etc. En Occident, beaucoup de gens disaient les athlètes soviétiques sont dopés. Personne n'était capable de pouvoir le prouver en réalité, parce que c'était très compliqué en fait d'aller ne serait-ce qu'en Union soviétique pour essayer de le vérifier sur place. Donc c'était souvent des hypothèses, des suppositions. Et finalement on a su qu'il y avait un programme effectivement de dopage d'État, pour le coup soviétique, qui avait été mis en place pour les JO de Los Angeles afin de remporter la compétition. Programme qui n'a du coup servi à rien, parce que la Union soviétique n'a pas participé. Mais voilà, tout ça pour dire que là on a affaire finalement à la face visible de quelque chose qui jusqu'à présent était simplement fantasmé, en fait.
Alors, il y a cette utilisation, Lucas Aubin, du sport à l'extérieur des frontières, mais Vladimir Poutine utilise également le sport à des fins intérieures. Vous parlez de l'utilisation du sport dans une véritable campagne hygiéniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment Poutine a utilisé le sport à des fins hygiénistes?
Alors déjà, l'expression... hygiéniste, ça c'est un néologisme finalement qui date de l'époque soviétique, et quand en 1917 la révolution bolchevique a lieu et que derrière Lénine commence à mettre en place l'État soviétique et tout ça, il décide déjà à l'époque d'utiliser le sport, mais pas à des fins de rayonnement international. À l'époque, la volonté est réellement d'assainir une nation, un peuple qui est très pauvre, paysan. Où l'alcool règne généralement de manière importante. Et du coup, voilà, le sport, c'était à ce moment-là une manière finalement assez peu chère, enfin qui coûte peu, qui est peu onéreuse, de réussir à mobiliser la nation, à l'assainir et à la rendre en meilleure forme. Et l'idée, effectivement, c'était aussi de faire du travailleur, de le rendre plus performant également. C'était ça l'idée de Lénine. Et du coup, ensuite, Staline est arrivé au pouvoir, et à ce moment-là, ça a basculé. Là, ça a basculé, c'est-à-dire qu'en entre 1927 et 1937, l'Union soviétique organise ce qu'on appelle à l'époque les Spartakiades, donc en gros les JO de l'Union soviétique, afin là d'exister à l'échelle internationale et de montrer l'altérité soviétique. Puis, la Seconde Guerre mondiale éclate. Dans cette période-là, il y a eu une espèce de trêve, on va dire, du sport. Et ensuite, Staline, dès 1952, décide d'intégrer les instances internationales du sport, notamment le CIO, la FIFA, etc., et de participer à ces grandes compétitions internationales, et participe, pour le coup, aux premiers JO de l'histoire de l'Union soviétique. Et pour un bilan qu'on connaît, hein, c'est-à-dire, j'ai plus les chiffres exacts, mais sur, je crois que sur 12 participations, il y a eu 9 victoires de la part de l'Union soviétique au classement des médailles. Donc voilà, un succès tout de même.
Vous parliez, Lucas Aubin, de la question de l'alcool en Russie. L'alcoolisme est en recul depuis un certain nombre d'années. Quand on regarde les chiffres, depuis entre 2013 et 2016, les volumes d'alcool consommés par individu ont chuté de 43%. Jusqu'où est-ce qu'on peut lier précisément ce recul de la consommation d'alcool au sport, aux campagnes de promotion du sport et de ses valeurs afférentes?
C'est une question très intéressante parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui en Russie visible à l'œil nu, en réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à voyager en Russie pour la première fois justement en 2003. En fait, date de justement de cette étude de l'OMS que vous citiez. Donc c'est-à-dire qu'entre 2003 et aujourd'hui, la population russe boit beaucoup, beaucoup moins. C'est un fait, et c'est un fait qui est visible dans le sens où aujourd'hui, à Moscou, Saint-Pétersbourg, dans les grandes villes, surtout dans les grandes villes évidemment, on a vu fleurir énormément de centres de fitness, de centres sportifs, de stades de foot, de stades d'athlétisme, etc., etc. Et c'est devenu, c'est, je dirais, 5 dernières années, très à la mode en Russie, de cultiver son corps, en réalité. Extrêmement important. Et à l'initiative de ça, évidemment, on a, en premier lieu, Vladimir Poutine, qui, lui, en fait, a construit véritablement sa mythologie autour du sport. Quand il est arrivé au pouvoir en 2000, très rapidement, il a commencé à expliquer que ce qui l'avait sorti des rues de Leningrad, donc ancienne Saint-Pétersbourg, quand il était jeune, c'était le judo. Sans le judo, il serait devenu une petite frappe, un voyou, pour reprendre ses termes, et que c'est vraiment le judo qui l'a sorti de cette misère-là.
Auquel il s'est mis à 11 ans. Mais alors, voilà, justement, vous avez écrit un article, Lucas Aubin, extrêmement intéressant, intitulé, je cite, « Qui contrôle le sport en Russie ?» point d'interrogation, étude de la sportokratura à l'ère de Vladimir Poutine, dans lequel, effectivement, vous revenez sur cette évolution du monde sportif depuis l'arrivée de Vladimir Poutine. Vous expliquez comment, finalement, au début des années 2000, il hérite d'un système sportif qui est carrément à bout de souffle et comment, en 15-20 ans, il va retrouver toute sa splendeur ou presque, même si aujourd'hui, vous l'avez dit, il rencontre quelques déboires. Mais c'est vrai qu'à l'époque des Jeux Olympiques de Sochi et même lors de la Coupe du Monde de football, on est un peu à l'apogée de cette diplomatie sportive. Et vous introduisez dans votre papier un néologisme, sportokratura, qui est formé à partir des mots sport, évidemment, kratos, le pouvoir, et puis nomenclatura, c'est quoi la sportokratura?
Je suis très content que vous posiez la question. Donc c'est un concept que j'ai inventé, un néologisme que j'ai créé au cours de mes recherches. Après 5 années de recherche, je suis en mesure d'affirmer que depuis que Vladimir Poutine a pris les rênes du pouvoir en 2000 jusqu'à aujourd'hui, il a mis en place en fait une structure politico-économico-sportive informel, un mouvement politico-économico-sportif informel, on va dire vertical, donc qui descend depuis la tête de l'État jusqu'à la masse des sportifs, tripartite, car il est composé de 3 catégories d'acteurs que sont les oligarques, les sportifs et les hommes politiques, et hybride, car il est à la croisée des chemins entre le modèle capitaliste du sport ultralibéral et le modèle soviétique du sport, avec cette espèce d'autoritarisme qu'on lui connaît. Voilà. Et donc, ce mouvement politico-économico-sportif informel a été mis en place progressivement. C'est pas une décision qui a été prise comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on peut comprendre aujourd'hui, en fait, tout simplement en regardant qui sont les acteurs principaux du monde du sport en Russie. Pas un grand club n'est pas dirigé par un oligarque proche du pouvoir, pas une grande fédération sportive n'est pas dirigée par un homme proche de Russie Unie, le parti politique au pouvoir, etc., etc. Pendant les JO de Sochi, par exemple, c'est Vladimir Potanin, donc le propriétaire d'Interos, là, une holding russe, qui a financé en grande partie la station de ski de Khozakhutorg, non loin de Sochi, qui l'a financé parce que Vladimir Poutine lui a demandé.
Donc, si je comprends bien, 3 acteurs, un système qui mélange 3 acteurs, les sportifs, les oligarques, les responsables politiques, avec une organisation extrêmement pyramidale, donc ça veut dire que celui qui décide, ça reste le Kremlin, ça reste Vladimir Poutine.
Tout à fait.
Donc quand on reprend la question que je vous posais tout à l'heure, Lucas Aubin, sur la responsabilité vis-à-vis de toutes ces accusations de dopage avancées par l'Agence mondiale antidopage, on peut imaginer que Vladimir Poutine aurait sinon initié, au moins soutenu cette vague de dopage dont elle est accusée ou...
En fait, c'est pour ça que je dis que cette organisation, la Sportokratura, est informelle. C'est parce que, en fait, c'est aussi une manière de montrer patte blanche au Kremlin que de financer tel événement politique, sportif, pardon, que de remporter telle compétition, que de construire tel ou tel stade dans telle région, etc. En fait,
mais on ne dit pas aux sportifs dopez-vous.
C'est pas ça. Sûr. Justement, c'est pas ça qui se passe. Et la nuance, elle est là, en fait. Et c'est pour ça que justement, je répondais qu'on était incapable de dire que si oui ou non, en fait, Vladimir Poutine savait. Ça paraît très compliqué, encore une fois, qu'il n'ait pas été au courant, bien entendu, dans un pays justement contrôlé de cette façon-là. Mais, encore une fois, la Russie est un pays continent. Donc, Vladimir Poutine ne peut pas tout contrôler mécaniquement. Voilà.
Vous dites donc, ce système avec trois acteurs, les sportifs, les oligarques et les responsables politiques, vous dites aussi un mélange, une forme d'hybridation entre le capitalisme et le système soviétique. Qu'est-ce qu'il y a de soviétique et qu'est-ce qu'il y a de capitaliste et comment ça se perçoit au niveau des sportifs? Vous dites par exemple dans votre papier à un moment que les sportifs ont peut-être plus de liberté qu'à l'époque soviétique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous êtes obligé de faire ce que vous dit un responsable politique ou un oligarque ou même un président, de quelle liberté jouissez-vous quand vous êtes sportif?
Bah justement, à l'inverse de l'époque soviétique où il était impossible quasiment jusque dans les années 80 de jouer dans un club étranger, par exemple, pour un joueur soviétique, un sportif soviétique, aujourd'hui... vous avez la liberté en Russie en tant qu'athlète de participer à des entraînements à l'étranger, de jouer dans tel ou tel club, je ne sais pas, londonien de football, etc. Ça, c'est une possibilité et d'un point de vue économique également. C'est-à-dire que les oligarques ont cette capacité et cette liberté de pouvoir investir dans des clubs étrangers s'ils le souhaitent, bien entendu. Par contre, il leur est vivement conseillé de supporter, de soutenir le sport russe. Parce qu'en fait, Vladimir Poutine en a fait un vecteur de patriotisme fort, en réalité, et ne pas soutenir le mouvement sportif russe, que vous soyez athlète, homme politique ou oligarque, c'est quelque part ne pas être un bon patriote. En fait.
Et pour mettre en place évidemment cette politique, il faut s'entourer. Vous évoquez dans votre article cette garde prétorienne du sport. Vous citez un certain nombre de noms. Je vais en citer quelques-uns. Vassili Chestakov, Boris Rotenberg, Gennady Timchenko, Viktor Zolotov, Igor Sidorkevich. Toutes des personnalités très importantes dans le monde du sport en Russie, pour comprendre justement comment est-ce qu'elles vont pouvoir avoir ce rôle central dans le système. On pourrait peut-être s'intéresser à une figure en particulier. Alors moi je les connaissais pas, j'ai regardé l'une d'entre elles, et notamment Boris Rotenberg. Très intéressant de voir le parcours de cet homme. C'est un ancien champion de judo, qui a remporté d'ailleurs de très nombreuses médailles dans cette discipline à l'époque de l'URSS. Il a noué des amitiés avec Poutine lorsqu'il partageait les tatamis dans les années 90. Ils avaient probablement pas le même niveau, mais c'est pas le sujet. Et puis Boris Rotenberg devient entraîneur de judo professionnel en Finlande. Et puis il revient à Saint-Pétersbourg, alors que Poutine est devenu, alors là, une personnalité carrément incontournable de la municipalité. Et finalement, Rotenberg fonde une banque et puis il mène un certain nombre de projets de construction des sites, notamment pour les JO de Sochi, jusqu'à devenir l'un des hommes les plus riches de la Russie. Voilà comment est-ce qu'on devient un incontournable de la Sportokratura.
Exactement. Et quand on regarde de près justement cette Sportokratura, on se rend compte que beaucoup de sportifs devenus oligarques plus tard étaient amis ou partenaires de judo ou du moins sportifs avec Vladimir Poutine dans les années 90, voire même avant en fait. Et ce qu'a fait Vladimir Poutine, c'était aussi finalement redonner à ces oligarques-là la possibilité d'exprimer leur passion, en fait. Et donc, dès qu'il arrive au pouvoir, il leur a dit « Je sais que vous êtes à l'étranger, je sais que vous faites votre business, etc. Moi, je vous demande de participer à l'effort national pour redorer le blason de la Russie à l'international. » Et ça a fonctionné pour beaucoup d'oligarques qui ont entendu ce message. parfois sans avoir le choix, évidemment. C'était le principe justement de la du retour de la verticale du pouvoir dans les années 2000, c'est que en gros, si vous étiez contre politiquement à l'égard de Vladimir Poutine, en étant oligarque et donc puissant financièrement, le risque derrière c'était d'être condamné pour fraude fiscale, enfin, etc., etc. On connaît l'affaire Khodorkovsky de 2003 notamment.
Et cette fameuse garde prétorienne du sport, on la compose et puis on met l'un à la tête d'une fédération de tennis ou de hockey ou de que sais-je, et puis c'est comme ça que les choses s'organisent. Après, il faut penser le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a organisé les choses de l'intérieur, il faut que tout ce système sportif se diffuse et s'internationalise. Comment ça se passe précisément quand là on doit traverser les frontières et pénétrer aussi les instances sportives internationales? Est-ce qu'il y a un processus un peu formalisé, pensé?
Là, c'est là où probablement la sportoclatura est la moins développée en réalité. On le voit, les dirigeants russes, que ce soit politiques, oligarques, sportifs, ont des difficultés à atteindre les institutions internationales du sport. En réalité, alors pour certaines, si, on le voit, la Fédération internationale de judo, je crois, a pour membre honoraire Vladimir Poutine, notamment. D'ailleurs, certaines autres fédérations sportives le sont également. Je pense à la Fédération internationale des échecs, je crois, dont la tête est tenue par un Russe depuis quelques années. Je n'ai plus son nom en tête, mais de manière générale, la Russie a des difficultés en fait à s'exporter, s'internationaliser. Et du coup, beaucoup d'athlètes russes aujourd'hui, d'ailleurs, se plaignent de cette situation-là, parce qu'en fait, ils se rendent compte souvent que les personnalités russes sont persona non grata à l'étranger, ont des difficultés en fait à rentrer dans le concert normal, entre guillemets, des nations. Alors, je dirais, on pourrait
racheter des clubs de foot à l'étranger, notamment en Europe, n'a pas suffi. Se faire une place.
Non, n'a pas suffi. Et d'ailleurs, cette stratégie-là, elle est intéressante parce qu'en fait, elle a évolué depuis le début des années 2000. Il y a effectivement eu toute une vague d'oligarques qui ont racheté des grands clubs de foot, ou de grands clubs tout court d'ailleurs de sport, à l'étranger ou en Russie, surtout en Russie en réalité d'ailleurs. Nous on s'est concentré sur 2-3 cas, notamment de Chelsea, etc.
Avec Roman Abramovich, acheté Chelsea en 2003.
Effectivement, mais finalement les grands oligarques ont surtout racheté des grands clubs en Russie.
Boris Rothenberg a acheté, je crois, un club, je ne sais plus lequel, Moscou.
Boris Rothenberg, oui, je crois que c'est le CSKA Moscou, je crois. Ouais. À vérifier, j'ai un doute. Mais en attendant, de nombreux oligarques l'ont fait. Simplement, le problème en Russie, pour les clubs de foot, c'est qu'il y a une culture du foot qui est pas si développée que ça, un niveau qui est pas très important. Donc en réalité, ces grands clubs qui voulaient exister sur la scène internationale, ont dû créer une culture du foot, sauf qu'on ne la créait pas comme ça. En réalité, donc beaucoup d'argent ont été dépensés pendant quelques années. Ça a parfois fonctionné un peu, généralement pas trop finalement. Et du coup, aujourd'hui, on s'aperçoit que la Russie se normalise à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est peut-être fini le temps des oligarques qui investissent des milliards et des milliards de roubles. Peut-être qu'on va assister maintenant à l'arrivée de sponsors étrangers en masse afin de développer des clubs de football notamment, mais autres aussi, mais sur le long terme cette fois. Et peut-être créer une culture, mais dans le temps.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Allez, on va se plonger dans l'époque soviétique. Retour en 1972, lors des JO de Munich, et en particulier lors de cette finale mythique de basket qui opposa l'URSS aux États-Unis.
Серега, никогда не будет команды из таких, как ты.
Ну да, вам не повезло.
В следующем году будет Олимпиада в Мюнхене.
Voilà, ce qu'on entend là, c'est l'extrait de la bande-annonce du film qu'on pourrait traduire par 3 secondes, consacré à la victoire de l'équipe soviétique de basket contre les États-Unis au JO de Munich en 1972, qui est un film qui est sorti en 2017. Alors lors de cette finale, à 3 secondes de la fin, l'URSS mène de 1 point et elle est en possession du ballon. Elle va se faire prendre justement la balle par les Américains qui vont obtenir alors 2 lancers francs qui leur permettent de reprendre l'avantage. Les Soviétiques remettent en jeu mais ne parviennent pas à marquer et c'est là qu'arrive la controverse puisque les Soviétiques rappellent aux juges qu'ils avaient demandé un temps mort avant les lancers francs américains. Les juges leur donnent raison, ils obtiennent un temps de jeu supplémentaire avec un chronomètre mal réglé qui ajoute ces fameuses 3 secondes qui donnent le titre à ce film, les 3 secondes controversées qui vont permettre aux Soviétiques de marquer et de remporter cette finale. C'est un film qui a battu des records au box-office russe il y a 2 ans. Peut-on voir dans le succès de ce blockbuster une nostalgie de la Russie contemporaine vis-à-vis des champions soviétiques? Et plus généralement, quelle était la place du sport et son importance pour les autorités de l'époque? On a posé la question à Sylvain Dufraisse, qui est maître de conférence à l'Université de Nantes, qui signe cet ouvrage « Les héros du sport, une histoire des champions soviétiques ». Il est au micro de Margot Leridon.
Alors, tout d'abord, il y a une période un peu d'adaptation au sport de compétition dans les années 30, puisque les soviétiques, en fait, ont choisi de 1921 à 1937 plutôt une autre forme d'internationalisme sportif qui était un internationalisme prolétarien au sein d'une institution qui s'appelait l'Internationale Rouge du Sport. Mais en fait, cette institution, malgré donc une compétition qui a été un réel succès en 1928, les Spartakiades, n'a pas permis aux Soviétiques d'avoir des adversaires en fait assez performants. Et donc le succès des compétitions internationales et leur médiatisation, donc les JO, la Coupe du Monde de football, donc qui deviennent des manifestations d'importance dans les années 30, l'écho des victoires obtenues par certaines nations, l'évidente comparaison en fait que permettait le sport par la mesure ou la victoire, et l'échec de l'International Rouge du Sport ont favorisé déjà cette première volonté de rattraper et dépasser les pays capitalistes par le sport dans les années 30. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que l'insertion dans le monde du sport international se fait. Donc c'est à partir de la fin de l'année 1946 en fait que les Soviétiques commencent à intégrer les fédérations internationales. Et le projet est clair. Il s'agit par le sport de séduire les opinions occidentales, de mesurer aussi concrètement les performances des Soviétiques et surtout aussi de rendre les victoires, les records des Soviétiques dans leurs disciplines respectives, en particulier en haltérophilie, où les Soviétiques étaient déjà très performants, officiels, puisque auparavant les Soviétiques disposaient de records, mais ces records n'étaient pas officialisés.
D'accord. Alors, vous parlez du pouvoir de séduction de ces athlètes vis-à-vis de l'opinion occidentale. On y reviendra, mais d'abord, il y a autre chose qui n'allait pas de soi pour l'idéologie soviétique collectiviste. C'est le culte de l'athlète. De quelle manière cette figure a priori individualiste a-t-elle finalement trouvé sa place dans la mythologie soviétique ?
En effet, en fait, dans la presse soviétique des années 20, on note plutôt une dénonciation, en fait, des traits du sportif bourgeois, du sportif capitaliste. En fait, ce sportif de haut niveau aurait dans son corps en fait incorporé les valeurs du monde capitaliste. Et en fait, ce qui va se passer durant les années 30, c'est une transformation en fait de l'encodage, de la manière dont on perçoit en fait l'athlète de très haut niveau, le sportif. En fait, il va devenir au cours des années 30 le premier un exemple de très bon citoyen soviétique qui est équilibré physiquement, qui est harmonieux physiquement et qui, par en fait son adhésion au régime soviétique, va pouvoir porter haut les couleurs de la patrie. Donc en fait, on note une translation, en fait, d'abord d'une forme d'opposition à l'individualisme qu'incarne le sportif, à le sportif comme meilleur citoyen de l'Union soviétique et qui, parce qu'il a le soutien du collectif et parce qu'il redonne au collectif, va vers des victoires internationales.
Alors, ce sportif comme meilleur citoyen a été en quelque sorte une vitrine de l'URSS à l'étranger. Est-ce que le pouvoir préparait les athlètes à ce rôle d'ambassadeur ?
Oui, complètement. Alors, cette préparation, alors dans les premières sorties dans les années 30, en 1934 par exemple, il y a une délégation qui part en Tchécoslovaquie, c'est une des toutes premières qui affronte des sportifs bourgeois. Et juste avant en fait de passer la frontière, outre des recommandations idéologiques, en fait les sportifs passent chez le coiffeur pour apparaître de manière propre et soignée en fait à l'étranger. Et cet impératif à la fois idéologique, mais aussi cet impératif de donner une bonne image à l'extérieur de l'Union soviétique, va progressivement se raffiner. Et quand on lit, enfin dans les archives, ce que j'ai lu, les guides en fait qui était donnée aux sportifs avant de partir à l'étranger. Il y a tout un ensemble en fait de règles de conduite qui sont données aux sportifs soviétiques avant qu'ils ne partent, mais aussi des attentions à ce qu'ils doivent faire en compagnie, ce qu'ils ne doivent pas faire aussi au sein des villages olympiques, et également la manière dont ils doivent se tenir en fait en société, comment ils doivent se coiffer, cirer leurs chaussures, etc. Donc on a en fait des sportifs qui sont à la fois des incarnations par leur puissance, par leur performance de l'Union soviétique, mais qui sont aussi des vitrines en fait des jeunes citoyens soviétiques à l'étranger.
Oui, parce que durant la coexistence pacifique, certains sportifs étaient envoyés à l'ouest, même en dehors des grandes compétitions. Par exemple, on a eu le champion de saut en hauteur, Valérie Brumel, qui a effectué une tournée hivernale aux États-Unis en 1961. Comment ces athlètes étaient perçus à l'ouest ?
Alors, à l'ouest, en fait, il y a une certaine fascination qui se développe pour ces athlètes. Une fascination qui est aussi couplée à une dénonciation. Alors, durant les années 50-60, le thème récurrent, c'est la dénonciation du faux amateurisme de ces sportifs soviétiques. Ils sont considérés comme, en gros, des athlètes d'État, et j'utilise des guillemets ici, puisque c'est la manière dont on retranscrit ça dans la presse occidentale.
Oui, parce que, juste pour qu'on comprenne bien, en fait, les athlètes qui participaient aux compétitions internationales, et en particulier aux Jeux Olympiques, étaient supposés être des amateurs.
Oui, en gros, jusqu'en 1980, seuls les amateurs peuvent participer aux compétitions internationales. Mais il y a tout un ensemble en fait de dérogations ou de systèmes qui sont utilisés par les différents États ou les différentes fédérations pour en fait faire participer des sportifs qui en fait c'est l'essentiel de leur métier. Mais il y a tout un tas de subterfuges qui sont développés. Alors aux États-Unis, ça va être le fait que ces sportifs en fait, qui participent aux compétitions internationales sont des étudiants et demeurent des étudiants en URSS. Un des éléments, en fait, c'est que ces sportifs vont obtenir des bourses qui vont être très hiérarchisées, très ordonnées et qui leur permettent, en fait, de s'adonner à la pratique sportive.
Vous savez, on parle d'un très jeune homme. Ses parents habitent en Union soviétique. Et donc, je ne vois pas pour quelle raison ce jeune homme qui ne parle pas anglais ou une autre langue étrangère, qui vient juste d'obtenir son diplôme dans une école ordinaire, pour quelle raison, en fait, il demande l'exil politique au Canada.
En 1976, le cas du jeune plongeur Sergueï Nebtsamov, qui avait profité des JO de Montréal pour demander l'asile politique au Canada, avait défrayé la chronique. Est-ce que des tentatives de défection dans ce genre ont été fréquentes ?
Alors, là, il faut aussi analyser de manière différenciée les cas des démocraties populaires et le cas soviétique. En effet, dans les démocraties populaires, il y a eu des cas assez fréquents de défection sportive. On pense, en fait, aux sportifs en 1956 qui ont quitté la Hongrie au moment des Jeux Olympiques de Melbourne. On pense aussi aux Tchécoslovaques. Par contre, en Union soviétique, les cas de défection sont assez rares. Ils concernent j'en ai comptabilisé moins d'une dizaine en fait sur la période que j'ai étudiée à partir des archives que j'ai étudiées. Et il faut savoir en fait aussi que les sportifs qui ont fait défection sont des sportifs qui ont soit aussi des attaches en fait nationales, je pense à des Estoniens par exemple ou des Baltes, ou aussi ce sont des sportifs en fin de carrière. Il y a un couple de patinage artistique qui fait défection, mais qui en fait choisit de partir à l'étranger pour poursuivre une carrière dans des compagnies de patinage artistique, de spectacle en fait. Donc ces cas sont plutôt rares parce qu'il y a une forme, il y a deux choses qui ont limité ces défections. C'est d'abord le futur qui était octroyé en fait en URSS à ces sportifs qui avaient une carrière en finale assez simple une fois que leur carrière sportive se terminait, avec des postes d'entraîneur, des postes de dirigeant dans les sections sportives, dans les sociétés sportives, et aussi avec des niveaux de revenus qui était assez confortable. Il ne faut pas non plus négliger les questions des pressions, puisque par exemple, quand un sportif partait à l'étranger, sa famille restait en URSS, et dans le cas de Sergueï Nedensanov, en effet, les autorités soviétiques ont fait appeler sa grand-mère, sa famille, pour lui demander de revenir au pays. Donc il y a à la fois des formes de pression qui sont exercées sur les sportifs, mais aussi des possibilités de carrière qui sont beaucoup plus simples, en fait, dans le cadre très cadré de l'Union soviétique, plutôt qu'à l'étranger. Et ça, c'est aussi des sportifs qui m'ont expliqué cela. Je pense à un athlète qui s'appelait Igor Terovanessian, qui m'avait indiqué que sa carrière, en fait, en URSS, elle était complètement dessinée.
Alors, du coup, sans arriver à de telles extrémités comme des fuites ou des défections, les déplacements internationaux des sportifs étaient quand même pour eux une fenêtre sur un monde très différent du leur. Qu'est-ce qu'ils en rapportaient en Union soviétique ?
Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir que les sportifs font partie des soviétiques qui fréquentent extrêmement régulièrement l'étranger, puisqu'il y a tout un ensemble de compétitions, de tournées, de démonstrations qui leur permettent de dépasser la frontière, ce qui est un réel privilège en Union soviétique. Alors, ce qui est intéressant, et là je fais un écho par rapport au film que vous avez diffusé, à l'extrait de film que vous avez diffusé en début. En fait, ce film montre quelque chose d'assez original par rapport aux autres biopics sportifs qui sont sortis dans les précédentes années. C'est qu'il montre aussi comment sportifs soviétiques pouvaient procéder à des circulations d'objets venus de l'Ouest et ramenés en Union soviétique des objets déficitaires. Et donc dans les valises des sportifs, puisque ces sportifs sont exemptés de droits de douane jusqu'au milieu des années 60, eh bien ils peuvent ramener des biens de l'étranger.
Et qu'est-ce qu'ils ramenaient alors ?
Alors ils ramenaient de la laine mohair, par exemple, ils ramenaient des foulards. Il ramenait en fait des biens de consommation qui étaient déficitaires en Union soviétique.
Le sport, c'est de la merde. Le sport peut entraîner une mort lente et douloureuse. Le sport crée une forte dépendance. Ne commencez pas.
Voilà, c'était Sylvain Dufresne qui était avec nous à l'instant par téléphone. Sylvain Dufresne qui est maître de conférence à l'université de Nantes et auteur de cet ouvrage « Les héros du sport, une histoire des champions soviétiques » paru l'année dernière chez Champvallon. Il était au micro de Margot Le Ridon. Un grand merci à vous Lucas Aubin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vous chercheur en géopolitique à l'université Paris-Nanterre. Merci de nous avoir éclairé sur la place du sport du côté de la Russie. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les émissions de cette série consacrée au sport comme arme de destruction massive sur le site de Culture Monde. 11h presque 53 minutes. On va retrouver dans un instant Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors Brice, le pape François serait devenu une source de méditation pour nos militants écologistes. Quelle nouvelle !
Le mésusage de la création commence lorsque nous ne reconnaissons pas d'instance supérieure à nous-mêmes. Tel est le fondement de l'encyclique Laudato Si, consacrée par le pape François à l'écologie. Dans la tradition chrétienne qui attribue tous les maux frappant l'humanité au péché d'orgueil commis par Adam et Ève, la crise environnementale est ainsi attribuée à l'hubris, aux excès, à l'avidité sans borne de l'homme moderne. On peut trouver significatif qu'une revue écologiste conservatrice ait choisi pour titre « Limite ». Les courants traditionnalistes ont toujours mis en cause la prétention des modernes à maîtriser la nature et à s'en approprier les ressources. Et ce n'est pas un hasard si cette critique de la maîtrise est centrale dans la pensée de Martin Heidegger. À croire l'étonnant de cet écolo-conservatisme, les pêcheurs-cueilleurs d'autrefois vivaient en harmonie avec les autres espèces, ils entretenaient avec le milieu des rapports moins utilitaristes et moins dévastateurs que nous, leurs lointains descendants. Mais cette idée n'est pas cantonnée à cette frange conservatrice de l'écologie, selon Martin Boudry, elle est répandue dans le milieu écologiste tout entier, plus fondamentalement conservateur qu'il ne le croit lui-même. Or, selon ce professeur de philosophie des sciences à l'université de Gand, elle est fausse, cette idée. La réalité, c'est que nos ancêtres en question devaient dévaster leur environnement pour simplement se maintenir en vie. Quoiqu'en petit nombre sur la planète, les hommes d'autrefois ont provoqué de très importantes déforestations, rien que pour ne pas mourir de froid et faire cuire leurs aliments. Les trois quarts de la déforestation d'origine humaine sur la Terre ont eu lieu, tenez-vous bien, avant 1800. C'est lorsque les humains ont découvert, très récemment, des sources d'énergie de haute densité telles que le charbon, le pétrole et le gaz, qu'ils ont pu cesser de dévaster les forêts. Aujourd'hui encore, poursuit Martin Boudry, la solution n'est pas de moins voyager, de moins consommer et de moins mondialiser. On ne saurait se fixer pour objectif de retourner à un état d'harmonie avec la nature, car cet état n'a jamais existé que dans les mythologies. Ce que nous devons faire, c'est accroître l'efficacité des sources disponibles d'énergie et en découvrir de toujours plus efficaces, comme nos ancêtres récents l'ont fait avant nous.
Brice, les énergies renouvelables voient leurs coûts baisser régulièrement. Pour la majorité des organisations écologistes, elles seraient la solution aux problèmes posés par l'épuisement inévitable des ressources fossiles.
Eh ben, de ce point de vue, les sources d'énergie renouvelable se révèlent une erreur. Un professeur de physique émérite de l'université d'Oxford, qui s'appelle Wade Allison, a mis en ligne sur Project Syndicate un article dans lequel il compare, en physicien, la densité massique d'énergie des combustibles actuellement disponibles. Celle des énergies fossiles, telles que le gaz ou le pétrole, est 1000 fois supérieure à celle des sources d'énergie utilisées avant la révolution industrielle, comme le vent. Mais celle de l'uranium est, selon lui, 5 millions de fois supérieure. Et c'est pourquoi l'humanité ne renoncera certainement pas à cette source d'énergie-là avant longtemps. L'opinion accepte bien volontiers que nous soyons exposés à un seuil relativement important de radiation pour faire des diagnostics dans le cas d'une radio ou d'un scanner, ou encore pour traiter des cancers, écrit-il. Il faudrait qu'il en soit de même quand le nucléaire est au service de la planète en tant qu'énergie. À la différence des renouvelables, écrit de son côté Martin Boudry, que je citais, les centrales nucléaires fournissent de l'électricité sans interruption et elles occupent un très faible espace en comparaison des surfaces considérables qu'il faudrait consacrer à l'installation d'éoliennes pour obtenir une puissance comparable. Elles n'émettent pas de CO2. En dépit de ce que nous entendons aux informations, poursuit-il, l'énergie nucléaire est la plus sûre et la moins polluante source d'énergie au monde. C'est pourquoi les seuls pays qui sont parvenus à décarboniser largement leur production d'électricité, ce sont la Suède et la France. Les énergies fossiles ont été un fort utile escabeau dans l'histoire du progrès humain, conclut Boudry, et dans les pays en développement, elles le sont encore. Mais il est temps maintenant de tirer cette échelle de sous nos pieds. Une tâche d'une telle ampleur n'appelle ni modestie, ni humilité, mais au contraire, de pensée large et d'audace. Des réductions dans les voyages ou la consommation seront sans doute nécessaires, mais très insuffisantes. Indépendamment de ce que nous faisons, la demande d'énergie globale va continuer à augmenter dans un futur prévisible. Ce que les pays développés doivent faire, c'est augmenter considérablement les budgets qu'ils consacrent à la recherche au développement pour l'innovation dans les véritables énergies propres et dans le geoengineering, et continuer à construire de nouvelles centrales d'énergie nucléaire, comme le fait la Chine, le pays qui en construit le plus aujourd'hui.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.